Direct en jeu, la radio insolite. Attention, accrochez-vous, je vais chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Anne. Eh oui, 20 ans, 20 ans que tu as repris. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors, 20 ans que tu... J'ai dit que tu as repris parce qu'en fait, tu t'es lancé dans le domaine du théâtre, puis après, tu t'es dit stop pendant 15 ans, tu as fait une pause, et après, en 2005...
Je me suis dit... Oui, voilà, après j'ai repris. Ben, je me suis dit stop, je me suis dit stop, c'est la vie qui m'avait fait dire stop, si tu veux. C'est-à-dire que ça, c'est un métier qui me faisait tellement peur et tellement flipper que, et mes parents, qui n'étaient pas du tout dans le milieu, m'ont transmis cette angoisse, qu'il y a un moment donné, tu dis, bon, il va falloir payer les factures et payer les loyers, etc. Et puis après, ben, tu sais ce que c'est, tu mets le doigt dans l'engrenage, tu commences par un mi-temps et tu finis par un temps plein, quoi. Et puis voilà. Et c'est comme ça que j'ai arrêté pendant 15 ans.
Bah non, tu viens, gentiment, voilà. Ouais, je viens gentiment d'accuser des parents, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui t'a donné envie de monter sur scène?
Alors, qui c'est qui m'a donné envie de monter sur scène? Eh ben, c'est plusieurs personnes. Non, mais j'accuse pas mes parents, c'est-à-dire que j'ai des enfants. Alors, je sais que ça fait flipper les métiers artistiques, mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, on a l'impression que... Bon, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de soutien que ça, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, je veux dire, je leur en veux pas du tout. Hein. Je veux dire, ces 15 années, m'ont nourri aussi et ont fait la comédienne que je suis maintenant. C'est-à-dire que j'ai bossé, j'ai été dans la vraie vie. Enfin, je suis toujours dans la vraie vie d'ailleurs, rassurez-vous. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, j'ai été vendeuse, j'ai été. Enfin, bon, j'ai fait plein de métiers. Et effectivement, tout ça, c'est des expériences qui font que ça m'a enrichi et je pense que ça fait. La comédienne que je suis aujourd'hui, si tu veux, tu vois, donc je peux pas, donc ça c'est parce que c'était ma voie, c'est tout simplement, c'était mon chemin à moi, c'était de faire ça, tu vois, et alors je sais plus ce que je disais, alors j'ouvre des tiroirs, hein. Je continue à ouvrir les tiroirs, je sais plus ce que je raconte, on disait quoi.
Non, je te disais, en 2005, c'est une passion qui explose hors de la boîte, c'est comme ça que tu es présenté,
ah, oui.
Je trouve ça assez extraordinaire, qu'est-ce qui a fait ce déclic, tu te dis, allez, je reviens.
En fait, c'est d'abord, ça m'a jamais quitté. Donc ça, c'est un truc, ça m'a jamais quitté. J'ai toujours eu ça au fond de moi, des tripes. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que pendant ces 15 années où j'ai arrêté, j'ai toujours été en contact avec des gens qui étaient dans ce milieu-là. Mais tu sais, des rencontres comme ça, des rencontres fortuites. Et hop, paf, c'était un photographe plateau. Hop, c'était un metteur en scène. Hop, c'était machin, tu vois. Et tu dis, en fait, c'est comme si la vie me prenait par le col de la chemise en disant, dis donc, reviens un peu par là parce que t'as pas fini ce que t'as à faire. Que ça marche ou que ça marche pas, mais en tout cas, pas aller au bout du truc quoi et puis en fait j'ai rencontré mon mari et c'est lui qui m'a dit mais t'es dingue, pourquoi t'as arrêté, t'as une passion, faut que tu reprennes, etc. Donc alors là c'était, tu sais, quand t'as arrêté pendant 15 ans c'est pas la même en fait, parce que tu te dis, ce que j'ai repris, j'avais presque 40 ans et tu te dis, est-ce que la vie m'a pas trop abîmée, dans le sens où est-ce qu'elle m'a pas retiré un peu toute cette folie, toute cette insouciance enfantine dont on a besoin pour jouer quand même, tu vois, parce que... Alors la bonne nouvelle, c'est que non. C'est que c'est comme le vélo, en fait, ça s'oublie pas trop, faut retirer la rouille, l'étoile d'araignée, puis après ça va. Et après, il fallait retrouver un cours dans lequel je me sentais... bien, tu vois, et puisque j'avais été chez Vera Greg quand j'étais plus jeune, et puis là, je suis tombée sur un metteur en scène qui s'appelle François Havane, qui fait régulièrement Avignon, d'ailleurs, il y a toujours des créations à Avignon, et qui a une compagnie qui s'appelle Le Vélo Volé, donc il donnait des cours, et donc je suis allée chez lui, et voilà, on a fait la poussière, on a fait le ménage, et voilà, et c'est comme ça que j'ai repris, et puis après... quand j'étais chez Vera, j'avais écrit un bout de spectacle, mais moi c'était pas du tout mon truc l'écriture, donc voilà, c'était un peu improbable. Et François, un jour je vais passer une impro du personnage, et François me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est quoi? Je lui dis, c'est quelque chose que j'ai écrit mais j'ai jamais fini, donc il m'a dit, finis, je te mets en scène. C'est comme ça qu'est née la toute première version de Mémé Casse-Bonbon que j'ai après, et après j'étais enceinte de mes enfants, donc évidemment après il faut que ça sorte, hein, tous ces trucs-là. Et après j'ai atterri au Bout, en fait à Pigalle, donc c'est un théâtre qui s'appelle le Théâtre Le Bout, qui était dirigé par Alexandre de Limoges et qui avait une école de l'école du One Man Show. Et comme moi j'avais une formation classique, je me suis dit, bah, il y a peut-être des formations, des codes de jeu, des codes d'écriture que je connais pas, donc je m'inscris. Et là, je tombe sur Alexandre et il me dit, qu'est-ce que tu as? Je dis, bah, moi, j'ai mémé. Donc là, il me dit, mais c'est plus du tout à la mode les personnages. On était en 2010, là, tu vois, 2009. Il me dit, c'est pas du tout à la mode les personnages. En plus, les personnages de personnes âgées, enfin, de vieilles, c'est pas du tout. Je lui dis, écoute, d'accord, mais moi, je pense que les personnages, je peux parler aux gens et tout. Et puis voilà. Et puis en fait, à la fin de l'année, ben, tu sais, tu avais une année de cours, et puis à la fin de l'année, il y avait une heure. Enfin, tu avais le droit de jouer dans le théâtre pour présenter ton heure, ton spectacle, quoi. Et donc, je présente Mémé. Donc là, il me dit, ah là là, c'est tout à fait le genre de spectacle que j'ai envie de défendre, etc. Donc là, il me propose de faire la mise en scène. Et là, commence, en fait, notre collaboration. Donc, c'est un double anniversaire, en fait. C'est l'anniversaire aussi des 15 ans de ma collaboration avec Alexandre de Limoges. Et en fait, donc on a commencé à. Donc il a fait la mise en scène du premier spectacle, puis après on a coécrit les deux autres. Et puis un jour, donc en 2019, on coécrivait le dernier, donc il s'appelle On est tous le vieux d'un autre. Et puis il me dit, ça y est, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire quand je serai grand. Alors j'ai dit, ah bon, tu veux faire quoi? Il me dit, bah, je veux écrire des. Parce qu'il est passionné d'histoire, lui. Exact. Il me dit, je vais écrire des seules en scène historiques. Je dis, ah bon, super. Et il me dit, et déjà, il avait écrit Gustave Eiffel, tu sais, et Enfer et contre tous, qui est un spectacle qui a marqué Avignon, parce que qui est un super spectacle et voilà, qui a eu beaucoup de succès, etc. Et puis là, il était en train d'écrire Akhenaton, qui est devenu Pharaon, la dernière heure d'Akhenaton, donc qui va jouer aussi cette année. Et puis voilà, et puis je lui dis, mais tu veux écrire que pour toi ou tu veux écrire pour les autres? Parce que mon personnage de Mémé, je l'aime beaucoup, Mémé, hein, c'est elle qui m'a fait vivre depuis tout ce temps, mais c'est vrai que derrière, il y a une comédienne aussi, et c'est vrai que j'avais envie d'être un peu en civil, de jouer autre chose, quoi, tu vois. Donc je lui dis, mais tu veux écrire que pour toi ou pour les autres? Elle me dit, non, pour tout le monde, mais pour les femmes aussi. Elle me dit, oui, bien sûr. Et je lui dis, pour les femmes, c'est quoi, par exemple, tes idées? Alors, il me dit, bah, par exemple, je sais pas, moi, Olympe de Gouges, Marilyn Monroe, tu vois, enfin, voilà. Donc, ça fait rêver, tu vois, ces noms-là. Alors, je lui dis, donc là, je l'ai regardé et je lui dis, bah, fais-toi plaisir, hein, regarde, tu vois. Et en fait, 3 mois après, il revient avec le radeau de la Méduse et là, je lui dis, c'est tout ce que je t'inspire. Un naufrage, en fait, c'est ça. Donc, tu n'as rien de plus glamour que le radeau de la Méduse. Et en fait, il me dit, lis, tu verras. Donc, j'ai lu. Et là, je me suis complètement passionnée. Enfin, tu vois, je me suis... D'abord, j'ai repris goût à l'histoire. Je lui ai dit l'autre fois, alors elle était contente. Ça m'a donné envie tu vois, je me dis, mais... j'ai trop séché l'histoire quand j'étais petite, ou tu vois, où ça m'intéressait pas. Enfin, ça m'intéressait, mais en même temps, il fallait apprendre par cœur, etc. Mais là, je trouve que c'est, tu vois, c'est une façon de. Et du coup, ça m'a redonné goût à l'histoire, donc ça m'a redonné goût à cette histoire-là aussi. Et puis, j'ai lu plein de trucs, j'ai vu plein de documentaires. Donc maintenant, je suis incollable sur cette période-là, et puis sur le radeau de la Méduse, quoi, tu vois, sur le tableau.
Comment est-ce qu'il faut appréhender le spectacle? C'est une découverte différente du tableau? C'est une explication plus détaillée, combien de toutes les scènes qui sont sur le tableau?
En fait, le spectacle, si tu veux, il est en 3 parties. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tableau, donc derrière le tableau, il y a un fait divers, il y a un vrai truc qui s'est passé. Donc il y a des vrais gens qui sont morts au milieu de l'eau sur leur radeau, là, abandonné. Et donc, à la suite de ce fait divers, Géricault a peint ce tableau. Et les deux combinés, Géricault, c'était un peintre très engagé. Donc il y a plein de trucs cachés dans le tableau. Et les deux combinés, c'est-à-dire le fait divers plus le tableau, ont été à l'origine du plus gros scandale politique, artistique et historique du début du 19e siècle. À tel point que ça a fait vaciller le trône, c'est que Louis XVIII a failli sauter quand même, hein, puisqu'on est en pleine restauration, donc on est sous Louis XVIII. Et voilà. Et donc nous, comme c'est une histoire qui est extrêmement riche et extrêmement dense, tu vois, du coup, Alexandre a eu une super idée, c'est que je vais expliquer sous forme de conférence. Donc ça, c'est la forme du spectacle, en fait. Mmh. C'est un spectacle, hein, c'est pas une conférence, mais c'est la forme qu'on a choisie. Je vais vous expliquer en quoi c'est un scandale artistique, en quoi c'est un scandale politique et en quoi c'est un scandale historique. Et en fait, donc on a ces trois parties-là, et donc dans le et donc tout s'entremêle évidemment, puisque tu ne peux pas parler du tableau sans parler du fait divers. Donc tout ça, tu vois. Et donc dans la première partie, on va détailler le tableau. Je vais raconter les trucs. Alors ce qui est rigolo, alors c'est pas du tout ennuyeux, hein. C'est-à-dire que on a créé ce personnage de conférencière qui est un peu déjantée. Qui est très terre à terre, tu vois, très comme ça, et en fait elle est fascinée par ce tableau et en même temps elle déteste ce tableau, et alors on sait pas trop pourquoi, et tout simplement parce qu'elle y voit le naufrage de sa vie. Elle est en plein instance du divorce, donc voilà, il y a plein de, tu vois, il y a des petits moments parce qu'il fallait la rendre un peu, fallait la rendre moins anecdotique qu'une simple conférencière qui raconte des tu vois, qui soulève les incohérences du tableau, etc. Donc on a voulu lui mettre une histoire perso qui était aussi qui lui donnait un peu plus de profondeur et qui était en lien avec le tableau, enfin tu vois, avec donc c'est très drôle parce que ce personnage, elle est très aigrie, elle est très elle râle tout le temps, etc. Et donc elle va passer son temps à dire lui il a une jambe trop longue, lui tu vois, raconter, par exemple, il y a une anecdote qui est assez connue, c'est que Jéricho savait pas peindre les pieds. Donc tous les personnages, pardon, qui sont au premier plan du tableau, elle leur a mis des chaussettes, tu vois.
Mais c'est plus facile à peindre.
Voilà, c'est ça. Parce que, et c'est complètement incohérent, puisque si tu veux, ils sont restés, donc la vraie histoire, c'est qu'ils sont restés 13 jours et 13 nuits sur ce radeau. C'est un radeau qui faisait 140 mètres carrés, ils étaient 147 dessus. Donc, ils avaient moins d'un mètre carré dessus, tu vois. Et quand ils ont monté dessus, ils avaient de l'eau jusqu'aux hanches. Parce qu'avec le poids, ça. Et ben, au bout de 13 jours, et le tableau, c'est le 13e jour.
D'accord.
Tu vois, on sait que c'est le 13e jour. Donc, le 13e jour, ils n'avaient plus les bas sur les pieds, tu vois. À mon avis, c'était parti à la mer, etc. Voilà. Et puis, donc, le 13e jour, le gros scandale aussi, c'est que. Il n'était plus que 15 à l'arrivée. Quand on les a récupérés, ils n'étaient plus que 15. Il y en a 5 qui sont morts par la suite. Donc, en vrai, il y a eu 10 survivants. Et voilà. Et c'est un peu l'histoire aussi du Titanic. C'est-à-dire que quand la Méduse a échoué, tous les nobles sont partis sur les canots de sauvetage, les chaloupes et tout ça. Et puis, sur le radeau, on a mis des soldats qui étaient des étrangers, des bagnards, tu vois, des membres de l'équipage. Il y avait quand même des gradés, il y avait une vingtaine de gradés. Et donc, le scandale, c'est que il y a des mutineries qui ont été organisées pour faire de la place sur le radeau. Donc, il y a des massacres qui ont été organisés. Il y a 3 massacres qui ont été organisés par les soldats, les gradés, qui, eux, s'étaient mis au milieu du radeau, parce que sur le radeau, il y avait un mât et il y avait un petit plancher surélevé, à côté du mât, au centre, quoi, si tu veux. Donc, quand ils sont tous embarqués sur le radeau, les gradés se sont tous mis autour du mât, parce que c'était le seul endroit où tu pouvais survivre, en fait. Parce que t'étais en hauteur, tu pouvais te tenir au mât. Et puis là, ils ont organisé un espèce de massacre, un massacre, où ils ont ouvert toutes les barriques de vin, ils ont saoulé tous les soldats, ils ont commencé à les pousser à l'eau. Puis après, il y en a qui se sont défendus, donc, voilà. Donc le cinquième jour, par exemple, le troisième jour, il y avait plus que 60 personnes sur le radeau, sur 147 au départ, tu vois.
Faut pas tout raconter.
Non, on va pas tout dire.
Alors par contre, il y a une chose qui est importante, c'est pas la première fois que le radeau de la Méduse, tu vas le jouer en Avignon, mais ça n'est pas le même spectacle puisqu'il a évolué.
Oui, il a complètement évolué. Oui, tout à fait. Il a évolué. Alors la chance, c'est que j'ai joué toute la saison à Paris, à la Comédie Bastille, qui est dirigée par Christophe Segura. Et en fait, quand on est arrivé en septembre, Christophe nous a dit « Oui, c'est un peu court, il faudrait rallonger. » Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas dire à Alexandre de Limoges, parce que là, dès que tu lui dis ça,
rien entendu.
il saute sur son ordi et il commence à tout modifier. Donc... Au mois de septembre, il a. Alors, évidemment, on n'a pas changé ni l'histoire, ni les 80% du spectacle, mais il a quand même un peu évolué parce que, il a refait une chronologie. Parce qu'avec le recul aussi, il y avait des choses qui n'étaient pas très, très claires pour le public. Donc, parce que quand on a le nez dans le guidon, on se dit, si, c'est évident, mais quand on ne connaît pas l'histoire, c'est très riche et très dense. Donc, c'est un peu compliqué. Donc là, il y a vraiment les trois parties qui sont très claires. Pardon. Donc c'est plus mélangé. C'est vrai qu'à Avignon l'année dernière, c'était un peu, ça s'entremêlait, si tu veux, les parties. Alors c'était clair, je pense que les gens comprenaient, mais là, c'est vraiment très net. Et puis surtout, on a rajouté un habillage sonore qui ajoute tout le truc, quoi, si tu veux.
Création d'ambiance.
Voilà, donc une ambiance. Bah, surtout quand je raconte la partie historique, donc la partie du naufrage. Et la partie des batailles, et tu vois, donc il y a tout un habillage derrière, quoi. Donc, il a un petit peu évolué, ouais, c'est plus trop le même. Mmh. Et puis, puis surtout, il est méga rodé, parce que j'ai quand même joué 5 fois par semaine à Paris depuis le mois de septembre, donc c'est cool, quoi. C'est super.
Alors, une chose importante à préciser, c'est qu'Avignon va être entre guillemets une étape, puisque en septembre, tu reprends à Paris.
Oui, je reprends à la Comédie Bastille, ouais.
Donc ça, c'est important. À Avignon, tu vas jouer où? Tu vas jouer quand? À quelle heure?
Alors, moi, je suis du matin. Hein, donc, je joue toujours le matin. Enfin, j'essaie d'avoir toujours les créneaux du matin. Donc, je joue à 10h45 au 3S, 4 rue Buffon.
D'accord.
Au 4, en fait. Puisqu'ils ont nommé... Il y a trois théâtres qui s'appellent les 3S. Et il y a le 7 et le 10, je crois. Moi, c'est le 4. 4 rue Buffon. Voilà.
Bon, c'est bientôt, hein.
C'est dans 10 jours. Enfin, je pars la semaine prochaine, je pars mardi prochain.
Bah oui, voilà. Déjà, faut se préparer, hein.
Oui. Ok. J'ai hâte d'y être, comme tous les ans, j'ai hâte d'y être.
Bon, en tout cas, ça paraît relativement intéressant parce qu'en même temps, on apprend, on se détend, on se fait plaisir. Si en même temps, humour, art et histoire, c'est ça qui est sympa.
Il y a beaucoup d'humour, les gens rigolent et en fait... C'est sympa parce que les gens, le public sort et me dit, oh là là, non seulement on s'est marré, mais on a appris plein de choses. Et le fait qu'ils aient rigolé, en fait, ils ont retenu parce que les trucs un peu, Et comme dirait ma copine Trinidad, l'humour, c'est la gorgée d'eau qui fait passer la pilule. Exactement. Parce que c'est un sujet quand même extrêmement, dur, quoi, tu vois, Et puis surtout, alors, ce qu'il faut savoir quand même, je trouve. C'est que ce spectacle est devenu, malgré lui, un spectacle d'actualité. Hein. Donc, venez voir le spectacle et vous verrez pourquoi.
Voilà. Tu as tout dit. Moi, je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour nous détailler tout cela. C'était hyper passionnant. N'hésitez pas à vous faire plaisir, à venir voir Anne. Et puis, allez voir aussi Alexandre qui jouera à Canaton sur Avignon. Merci
oui, oui, voilà. Oui, allez voir Alexandre aussi. Hein. Il sera au Petit Louvre, lui.
D'accord.
Il sera au Petit Louvre et je crois qu'il est à 11h30 ou midi. On est à peu près dans les mêmes horaires, voilà.
Bonne journée à toi.
Merci beaucoup.